Un matin, donc, je faussais compagnie aux deux commerciaux de Pearl River Plastic Productions, et pendant qu'à l'étage, ils bouillaient d'inquiétude au sujet de mes commandes, je bavardais au sous-sol. En cherchant dans ma veste une pièce de pourboire, je laissai une photo glisser de ma poche. L'employé la ramassa, sourit en découvrant le cercle familial. « Ce sont vos enfants, monsieur ?»«
Oui. »«
Combien en avez-vous ?»«
Deux, par chance. Une fille, un garçon. Je n'en espérais pas davantage. »
Dépasser le but n'est pas l'atteindre. Elle me tendit le cliché. Par politesse, je me sentis obligé de lui retourner sa question. « Et vous ?»«
J'en ai 10. »
« Pardon ?»«
J'ai 10 enfants. »
Sur le coup, je crus que ma maîtrise du cantonais chancelait. Par sécurité, je répétais le chiffre 10, en mandarin, en anglais. À chaque fois, elle confirma de la tête. Incrédule, je déployais mes doigts en éventail. 10 ? Pour me tranquilliser, elle énuméra les prénoms. Ting Ting, O, Daxia, Kun, Kong, Li Mei, Wang, Ru, Zhu, Shuang. L'amour que ces vocables éveillaient en elle, illuminant ses yeux, gonflant ses traits, rendit son visage un instant juvénile. Sans commenter, j'esquissai une grimace admirative de circonstance, claquai les talons, puis dardard montai rejoindre les négociateurs. J'étais abasourdi. Quel mensonge ! Outrancier. Se figurait-elle que j'allais la croire? M'estimait-elle stupide? Chacun savait, même un touriste dépourvu de cervelle, que pour dompter la démographie, l'État chinois depuis des décennies interdisait aux couples de mettre plus d'un enfant au monde. Pendant le déjeuner que m'offrirent mes deux interlocuteurs de Pearl River Plastic Productions, gardant en mémoire la forfanterie insensée de Madame Ming, je m'assurais auprès d'eux qu'on ne faisait pas d'entorse à la loi de l'enfant unique.
Des exceptions? Un assouplissement? Dans certaines provinces, au cas où l'époux et l'épouse vivent sans fratrie, on autorise un second enfant. À la campagne, quand une fille naît, les paysans conservent le droit d'essayer d'obtenir un garçon.
Pourquoi un garçon? Décochai-je en feignant l'ahurissement.
Parce qu'un garçon travaille fort au champ, puis il prendra soin de ses parents.
Ah bon, les filles cultivent l'ingratitude ici?
Non, mais dès que la fille part dans sa belle famille, les siens la perdent.
Qu'arrive-t-il lorsqu'une jeune mère tombe enceinte?
Elle avorte.
Et si le bébé a déjà vu le jour?
Elle paye une amende. Une amende substantielle.
Une Chinoise peut-elle avoir 10 enfants?
Les deux commerciaux ululèrent, les paupières closes en tapant la table avec le plat de la main. Crispés, bouche ouverte, ils devinrent plus cramoisis que le cul d'un singe. Sous l'effet des spasmes qui secouaient leur buste, grains de riz, miettes de porc, sauce aux haricots noirs remontèrent derrière leur langue, remplirent leurs joues, gagnèrent les lèvres, annonçant le vomissement. C'était prévisible, je l'avais cherché. Un businessman qui rit, rit toujours trop. Alors un businessman chinois. Quoi qu'elle me gênât, leur hilarité me confortait. M'esclaffer. Voilà la réaction que j'aurais dû opposer à Madame Ming. L'esbrouffeuse ne méritait pas mieux. Quelle sotte. Aussi maintins-je une distance lorsque, à 15 heures, je repassais devant elle. Or, depuis l'échange du matin, la baratineuse avait franchi le mur de réserve qui nous séparait et repris notre dialogue où nous l'avions laissé.
« Monsieur, comment s'appellent vos enfants ?»«
Fleur et Thierry. »
Bien que j'eusse rétorqué avec un rictus sinistre, elle s'empara des prénoms et, affichant un sourire béat, les répéta, les psalmodia, les roucoula comme les sons les plus mélodieux du cosmos. « Fleur ?» Et Thierry, l'avouerai-je? Elle m'émut. Entendre mes chers prénoms prononcés par cette voix limpide, extasiée,
dont l'articulation exotique rendait chaque voyelle rare, précieuse, bloqua ma respiration. Une larme coula sur ma main droite. Dès que j'en eus conscience, je blâmais mon sentimentalisme. Pardon, il me manque. C'est quand le froid de l'hiver surgit que l'on note que le pin et le cyprès se dépouillent de leurs feuilles après les autres arbres. Bienveillante, elle me tendit un mouchoir en papier. La joie se cache en tout, il faut réussir à l'extraire. Pleurez, monsieur, pleurez autant que vous le voulez. Je gagnais les lavabos où, bouleversé, je sanglotais sans retenue. Effectivement, c'était délicieux. En m'accablant, la mélancolie me comblait, car la douleur exaltait l'affection que j'éprouvais pour Fleur et Thierry. Je me mouchais, ennuyé que cette menteuse m'ait percé, résolu à dégarpir. Hélas, elle se leva et, un balai à la main, me barra le chemin. Quel âge ont Fleur et Thierry ?
15 et 13 ans.
À quoi se destinent-ils plus tard ?
Ils hésitent.
J'ajoutais encore, avec sincérité, allez savoir pourquoi. D'ailleurs, ça m'inquiète. Elle approuva. Ma sixième, Limei, nous a donné ce genre de souci. Depuis sa naissance, elle percevait des choses que nul ne remarquait. Dans les nuages, elle distinguait des visages. Au milieu de la vapeur qui embrume les sous-bois après la pluie, elle admirait des danses exécutées par des génies. Quand elle fixait des blocs de terre, elle détectait en eux des formes qui nous échappaient. Un cheval, par exemple, qu'elle faisait apparaître à force de tripoter, de râper et de polir l'argile. Sur notre plancher, le long des veinures boisées, elle lisait des épopées, des combats, les armées impériales en déroute, des horreurs qui l'épouvantaient tellement qu'elle plaquait ses mains contre ses oreilles pour éviter le cliquetis des armes ou les râles des blessés. Afin de l'apaiser, mon mari colla sur le sol un tapis usé. Coup de bol ! Entre la trame et les taches, Limei déchiffrait la légende du phénix, une fable dont elle raffolait. Pourtant, Limei possédait de mauvais yeux. Très tôt, le médecin l'avait contrainte à porter en permanence des lunettes au verre aussi épais que le cul d'une bouteille. Je m'étais d'ailleurs tant habitué à ses loupes qu'un jour où je la douchais, j'ai sursauté, éberlué de découvrir que sans sa monture, Limei n'avait pas les orbites trois fois plus grosses que ses sœurs. Elle rebutait mon mari. Faut avouer qu'elle ne brillait pas en classe. Si en leçon de biologie, l'enseignant racontait que le lézard se nourrit d'insectes, elle s'indignait en refusant d'écouter la suite. En cours d'histoire, elle pleurait dès qu'on évoquait la mort d'un empereur. En maths, elle riait aux éclats lorsque les lettres X ou Y se mêlaient au nombre et gloussait d'excitation si on lui annonçait qu'une ligne droite s'apprêtait à toucher une courbe. Moi, j'expliquais ses errements par un excès de sensibilité. Mon époux, lui, se reprochait d'avoir engendré une simple d'esprit. Où allons-nous fourguer cette morveuse qui ne voit pas ce que chacun voit, mais voit ce que personne ne voit ? À l'adolescence, il la traîna au poker avec lui, espérant que pendant les tournois, elle radiographierait les cartes de ses adversaires et lui permettrait de rafler la victoire. Inutile. Limei ne devinait rien. Ni as, ni pique, ni carreau. En revanche, elle repérait au-dessus des joueurs une lumière dont la couleur lui indiquait leur degré d'honnêteté. Un halon vermillon pour l'escroc, jaune pour le tricheur occasionnel, transparent pour l'incorruptible. Normal, la conduite du sage reste sans saveur, comme l'eau. Mon mari s'emballa. Pendant quelques semaines, il observa son don, contrôla que Limei ne se méprenait pas, puis conclut qu'elle pourrait aider la police, la justice, voire les services secrets. Il l'a présentée à un membre du parti que nous fréquentions, qui l'a ensuite introduite auprès de son supérieur, lequel l'a emmenée chez un haut responsable. Malheureusement, au-dessus de la perruque du chef, Limei a discerné l'auréole vermillon du fraudeur. Sa carrière d'espionne s'est arrêtée là. Ensuite, mon mari l'a boudée. Après cet esclandre, on lui avait ôté son emploi, le pauvre. Enfin, j'étais déjà ravi qu'on ne l'ait pas mis en prison.
À mon tour, j'essayais de trouver un métier à Limeil. Me rappelant que, enfant, elle décelait des silhouettes dans l'argile et les en dégageait, j'ai envisagé qu'elle pouvait devenir sculptrice. Une activité utile, respectée, rémunérée. Limeil a réussi l'examen d'entrée, entrepris ses études, progressé en croquis. Dès qu'on en vint à la taille, puisqu'elle ne pouvait tirer du minéral que ce qu'elle y constatait, on eut beau lui proposer toutes sortes de pierres, du granit, du marbre, de la lave, elle ne repéra jamais au cœur de ses blocs l'effigie de Mao, ni l'escadron de prolétaires méritants qu'on lui demandait de ciseler. Ses professeurs l'ont foutu à la porte. Elle éclata de rire. Eh bien, nous avions tort de nous angoisser. À Pékin, elle illustre des albums. Vous connaissez Didi, la grenouille chanteuse? Non? Ah, pourtant, les gamins s'arrachent les exemplaires. Limeil les dessine, à partir de textes rédigés par une pédiatre. Franchement, il fallait être elle, capable de surprendre ce que les autres ignorent pour sauver ses comptes, car si on se limite à ce qu'énoncent les 10 ou 15 phrases qui composent l'épisode... L'an dernier, elle a épousé un masseur, un homme qui voit avec ses doigts, et elle gagne confortablement sa vie désormais. Incroyable, non? Sans pouvoir placer un mot ni battre en retraite, j'avais subi sa comédie. Reprenant ma respiration, je murmurai en écho « Oui, incroyable !» Dans mon ton ironique, j'espérais qu'elle saisirait que ces craques ne me dupaient pas. Si elle perçut mes réticences, elle trébucha sur leur cause. « Je vous retarde. Excusez-moi, monsieur. Lorsqu'il s'agit de mes enfants, j'oublie tout, même la politesse. Je vous supplie de ne pas m'en tenir rigueur. Au revoir, monsieur. À demain. » Je brûlais de lui répondre « Excuse-toi plutôt de fanfaronner, sac à malice. C'est en me dupant que tu m'offenses. » Toutefois, soit par sidération, soit par lâcheté, je me contentais de m'incliner et remontais mener mes négociations.